Bien, nous allons revenir à la Genèse comme il a été annoncé et nous allons lire une partie du passage que nous allons regarder ce matin. Donc le passage porte sur 32, début du chapitre 32 jusqu'à la fin du chapitre 33. Mais on ne va pas lire tout cela, c'est pour ça que je vous avais demandé de lire en avance. Mais lisons quelques versets. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: C'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voilà ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et c'est la parole de Dieu jusqu'ici. Bien sûr, comme je l'ai dit, notre passage continue, mais nous allons nous arrêter ici dans la lecture. Donc, ce matin, nous regardons un long passage, mais nous le faisons de façon à ne pas nous laisser distraire par les détails. Il y a énormément de détails dans ces passages. Nous allons regarder l'ensemble, et c'est un peu pour cela que le titre reprend trois points forts, là: Mahanaïm, Péniel et Ésaü. Donc nous reprenons cette étude, cette série d'études de l'alliance de grâce dans la lignée d'Abraham. Et cette alliance de grâce qui traverse toute l'Écriture depuis la première page jusqu'à la fin et ensuite toute l'histoire de l'Église. Dieu poursuit un dessein éternel. Et ce dessein éternel consiste à amener par grâce dans sa présence un peuple, afin que ce peuple le glorifie dans toute l'éternité. Voilà en fait le dessein de Dieu. Ce peuple est issu d'une race qui est tombée dans le péché, dans la rébellion. Et là aussi, nous avons des tas d'interrogations, n'est-ce pas? Mais Dieu a promis, par alliance, c'est-à-dire qu'il s'est engagé par serment, de faire tout ce qu'il faut faire pour ôter les obstacles qui empêcheraient ce peuple de parvenir dans sa présence, c'est-à-dire qui menaceraient l'accomplissement de son dessein. Et face à l'échec répété de l'homme, continuellement, n'est-ce pas, Dieu a fait alliance avec un homme en particulier. Donc, dans tout le début de la Genèse, nous avons Dieu qui agit à travers la race humaine, avec la lignée de la promesse. Et puis là, on se focalise sur un homme, Abraham, qui est celui dont de la postérité duquel viendra le libérateur promis. Et ce libérateur qui ouvrira finalement la porte de la réconciliation pour tous ceux que Dieu a choisis depuis l'éternité. Nous avons ici donc un résumé du message biblique. Et donc nous avons suivi Abraham dans ses péripéties et nous avons vu que l'œuvre de Dieu est souveraine, c'est-à-dire qu'elle ne prend rien de l'homme pour s'accomplir. Abraham ne cherchait pas Dieu, Dieu cherchait Abraham. Dieu a gardé Abraham, l'a sauvé de ses bêtises, l'a conduit à travers le désert, et voilà, c'est Dieu qui agit. Il n'a pas besoin de l'homme pour cela. Et puis, ce fut le tour d'Isaac, et enfin de Jacob. Et ce dernier, qui, si on peut dire, par nature, est loin d'être un héros idéal, on ne le prendrait pas vraiment comme image d'un héros, ce Jacob est en train de rentrer en Canaan sur l'ordre de Dieu. Canaan qui est la terre promise, c'est-à-dire l'image de cette terre où le peuple est en communion avec Dieu. Et voilà que Jacob a passé de longues années en exil. Il a dû fuir, vous vous rappelez, un peu plus de 20 ans auparavant, parce qu'il s'est saisi par la ruse de ce que Dieu lui avait promis par grâce. Et en fait, ici, on a un résumé de nos vies. Combien de fois nous cherchons à nous saisir de ce que Dieu promet? Nous sommes maintenant à la frontière de Canaan. Jacob a quitté la Syrie. La dernière fois, vous vous rappellerez, il y a eu cette confrontation avec Laban et finalement la porte s'est refermée. Maintenant, Jacob ne peut plus retourner en Syrie, ne peut plus retourner à Padan Aram, mais il va vers Canaan. Il est à la frontière. Avec cette séparation avec Laban, la période de Jacob en Syrie est terminée. Un nouveau chapitre s'ouvre. Canaan est de l'autre côté du torrent Jabbok. Et nous nous trouvons face, ici, à un texte qui est rempli de détails mystérieux, qui suscite beaucoup d'interrogations. Je suis sûr alors que pendant cette semaine, vous avez lu ces deux chapitres, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors sachez que vous n'êtes pas les premiers, ni les derniers. Mais c'est cela. Et en étudiant tout ce passage, nous devons veiller à ne pas laisser les détails obscurcir le message central. Et donc nous allons découper ce texte en trois parties. Alors que je lisais cette petite portion, je voyais des tas d'avenues qui s'ouvraient par côté comme ça, où on pourrait faire un message pour chaque. Mais finalement, on arriverait à oublier Jacob et puis surtout on oublierait l'Éternel. Donc trois parties, ça va être assez simple. La première s'intitule bien entendu Mahanaïm. Mahanaïm. Alors c'est un nom un peu bizarre pour nous. Mais vous vous rappellerez que, enfin peut-être, que lors de son départ de Canaan, Jacob avait reçu une vision. La vision d'un escalier, d'une échelle, on dit d'après nos traductions, un escalier qui reliait le ciel et la terre. Et sur cet escalier, sur cette échelle, montaient et descendaient des anges. Bien sûr, c'est une image du fait que Dieu fait quelque chose qui relie et le ciel et la terre, ce qu'aucun homme ne peut faire. Tous les hommes essayent, mais personne ne le peut. Mais Dieu le fait. Et c'était bien entendu une promesse faite à Jacob. Jacob qui était arrivé au bout de lui-même, comme il dit dans notre passage, il est parti avec un bâton. C'est tout ce qu'il avait, comme on dirait, la chemise qu'il avait sur le dos, hein, on dirait aujourd'hui. Voilà, il est parti, il était craintif pour sa vie, il ne savait pas où il allait et tout cela, et c'est là que Dieu le rencontre, dans sa situation de totale incapacité. Et Dieu montrait par cette vision que dans son alliance, il ouvre une voie par laquelle il fera pour l'homme tout ce qui est nécessaire pour que cet homme paraisse dans sa présence réconcilié, dans la paix. Cette voie, préfigurée ici dans la vision par un escalier, par cette échelle, c'est bien sûr Christ, celui qui va venir un jour pour accomplir la promesse contenue dans l'image de la vision. Et jusqu'au moment où Christ expire sur la croix, jusqu'au moment où il s'écrit « Tout est accompli », il n'y a aucun moyen d'arriver dans la présence de Dieu, sauf par la foi dans l'annonce, dans la promesse de l'Alliance, c'est-à-dire que Christ va venir. Donc c'est lui qui est préfiguré par cet escalier. Et nous sommes maintenant plus de 2 décennies plus tard. Et Jacob est face à des défis colossaux. Il rentre en Canaan, il ne sait pas quelle situation il va trouver par rapport à son frère, même par rapport à son père. Des défis qui, en fait, étreignent son cœur de crainte. Il faut qu'on garde bien ça à l'esprit. Pendant tout notre passage, le cœur de Jacob est pris dans un étau de crainte. Et c'est à ce moment précis, lisons-nous, que Jacob a une vision de nouveau. Et c'est des anges, de nouveau. Et des anges le rencontrèrent. Verset 1. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. Voilà en fait l'exil de Jacob qui est terminé. Alors, le passage est assez mystérieux, ou même très mystérieux. Et le nombre d'interprétations qu'on peut rencontrer est effarant. Et ça nous montre en fait qu'on n'est pas les seuls à être perturbés par ce côté mystérieux. En fait, la vision est tout aussi mystérieuse que la parole de Jacob. Jacob voit ces anges devant lui et il dit « C'est le camp de Dieu !» Et là encore, je suis sûr que vous avez été comme moi. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Parce que franchement, une parole comme ça, c'est comme un cheveu sur la soupe pour nous. Alors, bien que dans nos versions, nous lisions pour la plupart « C'est le camp de Dieu », Jacob, en fait, parle de camp au pluriel, de 2 camps. C'est pour ça que c'est Mahanaïm, la formule plurielle en hébreu. Pourquoi, voilà les questions qu'on se pose, pourquoi est-ce que Dieu envoie ses messagers, ses anges? Pourquoi 2 camps? Quels sont ces camps? Et de multiples questions se posent, et franchement, il y a eu de multiples réponses qui ont été données, pas toutes très intelligentes. Mais voilà. En fait, cette expression plurielle cherche à communiquer une idée de force, une idée de situation spéciale, une idée de réponse adéquate à la hauteur du besoin. Le terme que Jacob utilise ici n'apparaît qu'à un seul autre endroit dans toute l'Écriture. Et c'est dans le Cantique des Cantiques. Et si vous voulez tourner avec moi et trouver ce petit livre, c'est dans le chapitre 7, Cantique des Cantiques. Donc vous trouvez Ésaïe, c'est assez long, c'est juste avant. Cantique des Cantiques, chapitre 7 et verset 1. Et nous lisons, alors là encore c'est mystérieux, « Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de 2 cœurs ?» Vous allez me dire, ce n'était pas la peine de venir à ce passage-là pour essayer d'expliquer l'autre passage, parce qu'il est presque plus mystérieux que le premier. Mais c'est le seul endroit dans la Bible où ce mot « Mahanaïm » est répété. Et donc voilà, on a ce passage. Et ici, dans le Cantique des Cantiques, on pourrait traduire que cette Sulamite, c'est comme une compagnie de 2 armées. C'est une autre façon de traduire. Alors la Sulamite, c'est en fait la bien-aimée de cet époux divin. C'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est celle qui est très chère au cœur du Sauveur. Et alors, L'utilisation de ce mot nous montre ça, c'est une idée très claire. Elle est comme une compagnie de deux armées. L'idée là est claire. Le pluriel montre que la bien-aimée de Christ n'est pas une femme ordinaire. Sa protection est à la fois assurée, adéquate et sûre. Christ va faire des exploits pour protéger sa bien-aimée. Et pour le Mahanaïm de Jacob, c'est la reconnaissance que Dieu est un secours qui ne manque jamais. Et on pourrait dire, et ça c'est l'encouragement que la vision donne à Jacob, ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Et bien entendu, la réponse est un oui retentissant. Donc voilà, Mahanaïm, ce que ça veut dire en fait. Dans tout notre passage, jusqu'à la traversée du Jabbok, et même après, en fait, nous voyons Jacob, l'homme de foi, qui, dans son imperfection, alterne entre une foi brillante et une crainte charnelle qui alimente tous ces divers trucs, ces diverses stratégies. Et si on veut comprendre tout ce passage, c'est là qu'il faut nous arrêter. En fait, Jacob, c'est un homme qui est vraiment comme nous. Et il va y avoir des moments où sa foi brille avec un éclat merveilleux. Quand il dit « Mahanaïm », il voit ce que Dieu est en train de lui dire. Et puis il y a d'autres moments où il n'arrive même pas à dormir. On va le voir. C'est exactement cela. En réalité, hormis le fait que Dieu s'est saisi de lui dans sa grâce et l'a scellé de son esprit, Jacob n'a pas beaucoup changé. C'est toujours un homme et un homme fragile. Et la question se pose, n'est-ce pas? Ne nous sentons-nous pas comme lui, bien souvent? On est à des moments où on a une communion merveilleuse, et puis le moment d'après, on se demande même si on est converti. Un pas en avant, trois en arrière. Ne crions-nous pas avec Paul, misérable que je suis? Qui me délivrera de ce corps de mort? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je sais que je ne dois pas faire, eh bien, je le fais. Nous avons ici Jacob, nous avons ici nous-mêmes et tous. Mais Dieu est là, dans la promesse de Christ, et il n'abandonne pas Jacob. Dieu est continuellement aux côtés de Jacob, mais l'homme alterne entre le haut et le bas, sans arrêt. Il voit les anges et il dit « Mahanaïm ». C'est une déclaration remplie de foi. Dieu est avec moi, je peux traverser la fournaise. Et puis nous voyons une ambassade envoyée auprès d'Ésaü, remplie d'inquiétude. Ces messagers en disant « Mais mon Seigneur Ésaü, ton serviteur Jacob », alors qu'en fait c'est le contraire. Nous le savons dans l'Alliance. Et puis il y a ce branle-bas plein de panique, partager le camp. Alors il va mettre une partie de sa famille dans un camp et puis l'autre partie dans un autre camp, juste au cas où on puisse échapper, ce qui est ridicule, n'est-ce pas? Puis une prière pleine de foi. Vous avez vu quand nous avons lu comme quoi il s'adresse à Dieu et pour la première fois, il l'adresse d'une façon très puissante dans la foi. Le Dieu de l'Alliance, tu as promis, délivre-moi. Mais tout de suite, une anxiété qui ne cesse pas de le tenailler. Parce que pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir. C'est là qu'il fait passer le torrent à toute sa famille et à tous ses troupeaux. Et puis, une stratégie excessive, désespérée, il envoie des présents à Ésaü. Mais ça dépasse de loin la bienséance. C'est ridicule, en quelque sorte. Donc on a ce Jacob qui alterne, vous voyez. Et en fait, on comprend bien Jacob. Ainsi, nous voyons un Jacob au bout de lui-même, face à sa complète impuissance. Il sait que le Dieu de l'Alliance est avec lui, ce Dieu qui n'a jamais failli à son grand-père, ce Dieu qui n'a jamais failli à son père. Il sait que c'est lui, Dieu, qui lui a ordonné de rentrer à Canaan et qu'il l'a fait avec la promesse d'être à son secours. Mais la crainte le tenaille toujours. Il prie une très belle prière de foi, mais il demeure, nous lisons, très effrayé et saisi d'angoisse. Que de soucis inutiles dont Jacob se charge. Et chacun de nous, amis chrétiens, nous lui ressemblons beaucoup. Combien de soucis inutiles nous nous chargeons. Vraiment inutiles. Et comme le dit le Nouveau Testament, ces choses sont écrites pour notre enseignement. Apprenons de lui et donnons-nous toujours davantage et plus entièrement par la foi au Dieu qui s'est toujours révélé digne de foi. Mahanaïm, les deux camps. C'est-à-dire, c'est un secours assuré. Un secours assuré. Nous pouvons nous confier en Dieu. Combien de fois on a besoin que cela nous soit répété? En deuxième point, nous avons vu Mahanaïm. Deuxième point, Péniel. Là encore, c'est un passage très mystérieux. Le récit des événements de Péniel, très mystérieux. Et il a donné lieu à quantité d'interprétations. Si une nuit vous n'arrivez pas à dormir et vous voulez trouver un moyen de vous endormir, cherchez toutes les interprétations qu'on a données à ce passage. On a même pensé que c'était quelqu'un qui venait d'Ésaü. Enfin, ne nous laissons pas perdre pour ça. Si on a besoin de dormir, ça peut être une bonne chose, mais c'est à peu près tout. Beaucoup de questions demeurent toutefois. Est-ce là la conversion de Jacob ? Je me rappelle discuter avec quelqu'un, un ami, qui me disait, mais oui, j'ai vu, il y a certains qui interprètent ça comme la conversion de Jacob. C'est possible. Ou bien est-ce que c'est une seconde expérience ? Chose dont certains milieux sont très friands aujourd'hui. Sinon, où s'est produit la conversion de Jacob ? Avons-nous le récit d'un combat réel ici ? Ou bien est-ce que c'est l'image d'un combat dans la prière ? Encore une autre interprétation. Qui est l'adversaire de Jacob ? Parce que c'est dans la nuit, dans l'obscurité. Quel est le but de ce récit ? Et quelles sont les leçons pour nous ? Comme vous le voyez, un grand mystère de multiples questions. Alors, essayons d'y répondre assez brièvement. Bien que l'épisode comporte de nombreux éléments qui appartiennent souvent à l'expérience de la conversion, il existe des signes tout aussi nombreux qui, dans les chapitres précédents, qui semblent indiquer que, bien qu'imparfait, Jacob est un homme qui est touché par la grâce depuis son passage à Bethel. Alors, vous allez me dire, tout le passage à Padan Aram, c'est loin d'être parfait. Comme notre vie chrétienne, n'est-ce pas ? Donc on pourrait dire, non, ce n'est pas là sa conversion. Par ailleurs, même si cette lutte comporte des caractéristiques qu'on rencontre souvent dans une lutte intense, certains parlent même d'agoniser dans la prière. Là encore, certains indices pointent vers un combat physique. Jacob a lutté contre un homme. Sinon, par exemple, comment est-ce qu'on va expliquer le coup tout à fait physique que l'adversaire porte à Jacob et qui fait que Jacob, jusqu'au bout de sa vie, va boiter, visiblement. Il est clair, d'après les propos de Jacob et d'après le nom qu'il donne à l'endroit, Péniel, que cet adversaire qu'il rencontre là n'est autre que Dieu lui-même dans la personne de son Fils, une apparition pré-incarnée de Christ. Mais pourquoi cette attaque ? À quoi sert-elle ? Pourquoi amener Jacob au bout de lui-même et même au-delà du bout de lui-même ? Le patriarche résiste bien. Si vous avez lu le récit du passage, vous le voyez bien, il résiste toute la nuit, n'est-ce pas ? Et il le fait pendant donc longtemps, mais seulement dans la mesure où Dieu le lui permet de résister. Parce que dès que Dieu veut montrer qui il est, il le touche à la hanche. Et Jacob est fini. C'est une réalité technique. J'ai rencontré une fois un lutteur. Alors, pas les lutteurs des Jeux Olympiques, ça c'est de l'opérette, n'est-ce pas? Mais un lutteur qui faisait de l'ancienne lutte antique. Et il nous a expliqué que quand on lutte, les anciens lutteurs, la seule chose qu'ils cherchaient à faire, c'est déboîter la hanche de l'adversaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'adversaire ne peut plus jamais se tenir debout. La seule manière de se tenir debout, c'est en s'accrochant à l'adversaire. Et là, c'est exactement l'image qu'on a ici. Exactement ici. Donc, c'est une réalité technique qu'on voit. Et ce lutteur dont la hanche a été démise, il n'a d'autre ressource, s'il veut continuer le combat ou même se tenir debout, simplement de s'accrocher à l'autre. Et c'est dans cette capacité de s'accrocher qu'il tient. Il ne tient que par l'autre et par sa détermination à ne pas abandonner. Et c'est là, en fait, cette lutte de Jacob. Que se passe-t-il ici? Que veut dire cet épisode? C'est du mystère. En fait, en une nuit de combat, Dieu fait passer Jacob par le même exercice au travers duquel il guide chacun de ses enfants pendant toute leur vie. Jacob est alors le détenteur de la promesse de l'alliance. C'est lui le patriarche, n'est-ce pas? La promesse lui a été remise avec le droit d'aînesse. Et ce qui se passe pour lui en une nuit prend toute une vie pour le vrai croyant. En fait, c'est cette croissance dans la grâce. Et là, on a ça dans une image condensée, si on pourrait dire. La grande victoire de Jacob n'est pas tant d'avoir lutté que d'avoir tenu bon dans la faiblesse en s'appuyant totalement à la capacité de l'envoyé de Dieu, du Messie. Et c'est exactement la vie du croyant. Toujours. Il ne devient pas meilleur. D'ailleurs, nous allons voir les épisodes suivants avec Jacob. On se demande même, Jacob, mais quand est-ce que vraiment il va fonctionner comme un bon chrétien, si un bon chrétien existe un jour? Non, il ne devient pas meilleur, mais, et c'est là important, il devient plus totalement dépendant de Dieu. C'est ce que l'auteur aux Hébreux décrit au chapitre 12, quand il montre que Dieu fait passer ses enfants par une discipline. Par un entraînement, rappelons-nous que ce mot discipline a une racine commune avec notre mot gymnase. Hein, ça nous montre un peu ce que ça veut dire. Et quand on est au gymnase, hein, quand on est à la gym, alors c'est pas trop plaisant. Il faut s'exercer. La discipline du Seigneur vise à affermir et à façonner les siens par leur lutte contre leur péché et par leur marche dans l'obéissance. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Ne laissons pas les prétendues victoires modernes nous tromper là. Jacob ne peut pas entrer en Canaan, la terre de la promesse, en tant que Jacob, le trompeur, celui qui manigance pour obtenir ce qui lui est promis. Non, il doit être Israël. Celui qui possède la promesse en se tenant sur la force du messager de l'alliance. Et c'est cela. Le jour où le croyant se trouvera devant le trône et on lui dira, mais pourquoi est-ce que tu dois, comment, sur quelle base est-ce que tu peux réclamer l'entrée là? Ah, ça n'est pas, mais j'ai lutté, mais j'ai remporté des victoires. Non, c'est, je me tiens sur celui-là. Celui-là avec un grand C, n'est-ce pas? Non, le messager de l'alliance. Ce n'est pas que Jacob sera parfait désormais, loin de là. Mais c'est plutôt qu'il va vivre le reste de sa vie, même les moments de recul, dans la conscience de son incapacité et sur la puissance de son Rédempteur. C'est pour ça que Jacob nous parle. Il ne peut tenir que par la force et dans la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de se tenir dans la vie chrétienne. C'est ainsi, comme le montre Hébreux 12, qu'il parvient à l'assurance qu'il est fils. Souvent, on va lutter, on va dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? N'est-ce pas? Alors les autres peuvent me dire, mais si, quand même. Oui, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne connaissez pas les doutes, les choses comme ça qui sont indignes d'un croyant. N'est-ce pas? Et c'est cela, on a des doutes. Comment est-ce qu'on va arriver à avoir cette assurance d'être fils, d'être enfant? C'est en s'appuyant sur ce Rédempteur, sur le messager de l'Alliance. C'est en voyant que par nous-mêmes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on arrive à ce point de ce cantique que nous avons chanté. Je ne sais pas. Il y a des tas de choses que je ne sais pas. Et je me méfie des experts qui savent. Je les fuis. Mais je sais. Et que le Seigneur nous amène à cette assurance. Je sais. Pourquoi? Parce qu'à travers tout ça, le Seigneur m'a amené à travers toutes ces difficultés, toutes ces choses-là. Et comme le dit le psaume 73, n'est-ce pas, où il est comme une brute, il est prêt à se détourner de Dieu. Mais je suis toujours là et tu es avec moi. Malgré tout ça, tu ne m'as pas abandonné. C'est exactement le point où est Jacob, c'est exactement le point où il faut en venir pour tout croyant. Cette assurance d'être fils, c'est dans cette discipline, dans cet exercice. Et c'est une image du croyant qui ne tient devant Dieu qu'en s'appuyant sur Christ et en menant la vie de Christ. Et pour savoir cette vie de Christ, il va creuser les Écritures, il va s'imbiber, s'imprégner des Écritures. Cette vie que l'Esprit de Christ a implantée en lui et qu'éclaire sans cesse la parole de Christ. Voilà la vie chrétienne. Ce combat de Jacob dans l'obscurité nous fait penser à un autre combat. Un autre combat biblique qui s'est produit très longtemps après. Très longtemps après. Et là encore, nous avons une agonie très physique. Au point que même la sueur du combattant ressemblait à des grumeaux de sang. Mais dans ce lieu, ce second lieu, celui qui lutte, lutte dans sa propre force. Et il le peut, car lui, il est indemne de péché. Il n'est pas un Jacob. Et il remporte la victoire dans l'obéissance. Écoutez-le. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Exactement ce que l'homme ne peut pas faire par lui-même. Et puis, ce lutteur, il engloutit en lui-même le châtiment. Il met à mort la mort. Il ouvre la porte de la vraie Canaan, du vrai lieu de repos, où on n'a plus besoin des œuvres pour gagner l'accès auprès de Dieu. Et il le fait, celui-là, pour tous ceux qui ont persévéré, tous ceux qui reposent sur sa pleine capacité. C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il est là à lutter. Et c'est cette lutte par laquelle il remporte la victoire. Celui-là, ce grand messager de l'Alliance, il ne boite pas au sortir du combat, mais il porte la marque des clous. Et cette marque des clous amène, apporte la bénédiction. Il fait valoir ce qu'il a vécu, et cela a valeur dans le ciel. Quiconque met la chair à mort, en exerçant la force de son esprit, traverse le dernier torrent impétueux pour entrer dans la présence même du Dieu de l'Alliance. Et ça, c'est l'image de Péniel. Rien de plus, rien de moins. Et c'est merveilleux, mes amis. Le combat de Jacob, c'est cette image concentrée de la vie normale du croyant. Cela ne donne pas un statut privilégié. Par exemple, quand Jacob pense qu'il peut demander à son adversaire de lui dire son nom, il dit « Mais pourquoi me demandes-tu mon nom? Qui es-tu pour ça? Es-tu spécial ?» Non, pas du tout. Non. Cela ne lui donne pas un statut privilégié, mais cela forme pour la destinée à laquelle son statut l'appelle. Il est celui qui est dans l'Alliance. Amis croyants, est-ce que vous marchez dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Afin d'atteindre le but comme dit Paul, le prix de la vocation qui vous est adressée. C'est dans l'obéissance. Trop souvent, nous cherchons à lutter. Nous cherchons à lutter. Et en cherchant à lutter, tout de suite, nous avons déjà mis un handicap sur notre voie. Parce que la lutte, ça se fait dans la chair. L'obéissance, c'est un grand pas en avant. Jacob a vaincu par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui lui a permis de vaincre. Jésus remporte la victoire dans la puissance de Dieu. Et cette puissance ouvre la porte à son peuple. Donc on a vu Mahanaïm, un secours qui ne manque jamais. On voit Péniel, la dépendance de Dieu, sur Dieu. Maintenant, troisième point, Ésaü. Vous allez me dire, c'est peut-être, on descend là, hein, vraiment, c'est la dégringolade. Ésaü. Alors que l'aube se lève, c'est une merveilleuse image, n'est-ce pas? Alors que l'aube se lève, Jacob passe le torrent. Après l'obscurité, le soleil se lève sur lui. Mais il boite, et il va boiter jusqu'à la fin de sa vie. Il boite, mais il porte un nouveau nom, Israël, prince avec Dieu. Il rejoint tout son camp, toute sa famille. Mais il y a une différence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre lecture. Il avait divisé sa famille en plusieurs groupes. Et bien entendu, Rachel, la bien-aimée, venait en dernier. Hein, on protège ce qu'on a le plus cher, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est différent. Regardez au début du chapitre 33, verset 3, par exemple. Lui-même passa devant eux. On a Israël. Il est devant sa famille. Quelle belle image de celui, grand C, qui est le sauveur du peuple. Il passe devant. Il est les prémices. Mais il faut toujours faire face à Ésaü. Parce que Ésaü est en train d'arriver avec 400 hommes. On peut imaginer, n'est-ce pas? Alors 400 hommes, ça nous fait un peu rire aujourd'hui quand on voit les armées qui se déploient. On parle plutôt de dizaines de milliers, centaines de milliers d'hommes. Mais 400 hommes, c'est le nombre, vous vous rappellerez, des hommes qui ont remporté la victoire avec Abraham quand il était contre 5 rois. 418 hommes. Et il a remporté la victoire. Et maintenant, l'autre, il arrive avec 400 hommes. Et Jacob n'a pas grand monde avec lui. Donc, il faut faire face à Ésaü. Et toute justice doit être établie. Ça, c'est dans l'esprit de Jacob. Rappelez-vous, Jacob a quitté Ésaü. Ils étaient loin d'être en bons termes. Alors que Jacob est tout occupé à sa repentance, il est intéressant de voir dans les actions d'Ésaü la valeur qu'il accorde à l'alliance de Dieu. C'est ce qu'Ésaü peut nous enseigner ici. La valeur qu'il donne au droit d'aînesse, la valeur qu'il donne à la bénédiction de l'alliance. Rappelez-vous que ce qui a amené la colère d'Ésaü, c'est que Jacob lui a volé le droit d'aînesse et la bénédiction de l'alliance. Maintenant, 20 et quelques années plus tard, quelle est la valeur que Ésaü apporte à ces choses? Et ce qu'il fait nous montre la valeur qu'il donne à ces choses. Ce que Jacob fait nous montre aussi la valeur. En fait, il n'accorde aucune valeur à ces choses. Absolument aucune. Pour commencer, nous lisons que dès qu'ils sont en présence l'un de l'autre, Ésaü descend de sa monture et il court vers Jacob pour l'embrasser, pour le prendre dans ses bras, comme ça. Or, il est celui qui naguère revendiquait avec larmes le droit d'aînesse, la bénédiction de l'alliance. Il aurait dû exiger l'allégeance du plus jeune, ainsi que manifester une certaine restreinte. Si je suis la partie lésée, j'attends que l'autre montre quand même sa repentance. J'attends que l'autre me montre qu'il va se mettre sous moi, en quelque sorte, sous ma supériorité. Là, non. Ésaü se précipite comme s'il n'y a pas eu de passé, comme s'il n'y a pas eu d'hier. Et dans cette course, enfin cette manière de se comporter, nous voyons que Ésaü, en fait, n'a cure de l'alliance. C'est pas son problème du tout. C'est pas son problème. Lui, il réagit comme il a réagi dans le temps, au niveau des émotions seulement. Il est content de revoir son frère. Alors, on a oublié les autres choses. Ben, 20 années, pensez, on ne va pas garder ces choses comme ça. Non, Ésaü, l'homme du monde, qui regarde toutes ces choses comme communes, sans aucune valeur, une simple passade d'autrefois. Pourquoi s'embarrasser de toutes ces vieilles histoires? Maintenant, on va avancer ensemble, on va essayer de faire des affaires, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. En revanche, Jacob se conduit d'une manière bizarre, si on peut dire. En fait, il va au-delà de ce qui est exigé pour essayer de montrer à Ésaü qu'il regrette ce qu'il a fait dans le passé. Ça, c'est une conscience qui est éveillée. Il est le vrai détenteur de l'Alliance. Dieu le lui a repromis, promis et repromis, n'est-ce pas? Et il est celui qui entretient une vraie relation avec Dieu. Et il démontre cela parce que quand il est conscient de la richesse de l'Alliance. Et donc, il est conscient de son péché quand il a manigancé pour se saisir de l'Alliance. Vous voyez, c'est ce que sa lutte avec Dieu lui a appris. Ce n'est pas ainsi que la bénédiction vient. La bénédiction vient en étant dépendant de Dieu. La crainte aiguë qu'il a éprouvée jusqu'à la nuit précédente face à Ésaü, eh bien, cela indique quelle est l'importance pour lui de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il imagine que Ésaü est encore en colère contre lui 20 années après. Pourquoi? Parce qu'il lui a piqué un trésor. Il lui a piqué ce qu'il y a de plus précieux au monde. Vous voyez? Mais pour Ésaü, il a même oublié la chose. Et nous avons ici une image du monde. Une image du monde. Non, il a conscience de la vraie valeur de ce que Dieu donne dans l'Alliance. C'est le plus grand trésor de la terre. Qu'en est-il de vous? La promesse de Dieu, les promesses de Dieu, qui sont toutes sûres en Christ, sont-elles plus que tout ce qu'il y a au monde? Ou y a-t-il encore des choses qu'on voudrait bien garder aussi en plus? Ou bien l'allégeance enthousiaste et enflammée des premiers jours a-t-elle été remplacée par une sorte de rationalisation qui mène à être quelque peu désabusé face à la grâce? Oui, il y a la grâce, mais quand même, il y a aussi d'autres choses. Il faut être sérieux, il faut être équilibré, on dira. Toutes ces choses qui semblent tellement justes qu'elles sont fausses. Le monde a-t-il repris ses droits dans votre cœur, croyant? Même si l'état d'Ésaü, homme profane, n'est pas le vôtre, veillez à ce que son esprit ne vous habite pas. Pour Ésaü, il est temps de passer à autre chose, d'oublier le passé. Le croyant, lui, est différent. Rien d'autre n'a d'importance. On lui ôte la vie, il est dans l'Alliance. Dieu lui demande de vivre et les douleurs viennent avec l'âge, il est dans l'Alliance. Il est dans l'Alliance. Et s'il a le désir d'être avec Christ, de partir, c'est pour être avec Christ, le messager de l'Alliance, n'est-ce pas? Non, le croyant est différent, il confesse son péché, il confesse son égoïsme, ces choses qui le poussent par nature à chercher à se saisir de toutes sortes de choses que Dieu donne par grâce en Christ. Puisse cet esprit nous habiter et nous conduire. Pourquoi, étant réconcilié, Jacob n'accède pas à l'invitation de son frère? C'est à toute fin de notre passage. Ésaü lui dit, allez, viens, on va partir ensemble, je vais t'accompagner, on va aller à Séir, c'est là qu'il habite. Enfin, c'est là qu'il a, disons, son campement. On verra qu'il doit bouger plus tard à Séir, mais oui, on va aller ensemble. Et Jacob lui dit non. En fait, il lui dit, mais j'ai les petits là, et puis les petits du troupeau, les petits de la famille, alors je ne peux pas aller à la vitesse que toi tu vas. Alors, j'irai plus tard, je vais te suivre. En fait, Jacob ne va jamais aller à Séir. Et Jacob sait qu'il ne va pas là-bas. Pourquoi est-ce qu'il lui parle ainsi? Pourquoi est-ce qu'il lui parle ainsi? En fait, c'est demi-vérité. C'est même pas une demi-vérité, c'est quelque chose de très diplomatique, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, parce que Israël est toujours Jacob. Israël est toujours Jacob. Et dans ces réflexions, mes amis, je trouve personnellement un très grand encouragement. Un très grand encouragement. Il n'y a aucun moment où Jacob se tiendra en tant qu'Israël par lui-même. On le verra la semaine prochaine, Dieu voulant. Quand il se voit Israël et qu'il met une certaine valeur dans cela, en fait, il est déjà endormi. Parce qu'on ne se tient pas sur le statut que Dieu nous donne, mais sur celui que Dieu nous a donné pour être dans ce statut. Et Jacob va raconter une histoire à son frère. Il va en fait tromper son frère parce qu'il est Jacob. Il ne va jamais aller. Là, le seul moment où il va revoir Ésaü, c'est en Canaan, aux obsèques de son père. Et là, il y aura séparation. On va le voir plus tard. Jacob. Mahanaïm, vous voyez, plein de foi, les camps de Dieu, Dieu est pour moi, je ne crains rien. Mais il n'arrête pas de craindre. Et Péniel, la lutte. Ne regardons pas Jacob comme luttant, comme un héros. Non, il lutte et il tient debout à cause d'un héros, ou grâce à un héros, n'est-ce pas? Et c'est la grande lutte que nous sommes appelés à vivre chaque jour, dépendant de Christ. Vous avez vécu déjà depuis ce matin. Vous avez failli, n'est-ce pas? Oui. On est tous dans ce cas-là. Il y a des pensées qui nous ont traversé l'esprit. On rougirait si elles étaient écrites sur le mur. Bon, peut-être que Laure et Wayne ne seraient pas contents si on les écrivait sur le mur. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Et est-ce qu'on va dire, oh, mais je vais faire mieux la prochaine fois? Mais on sait qu'on ne va pas faire mieux. Ces pensées sont déjà passées dans notre esprit avant qu'on puisse être conscient de les avoir. Non. Mais nous dépendons de celui qui n'a aucune mauvaise pensée. Celui qui tient debout, n'est-ce pas? Et il nous montre comme quoi notre hanche est démise. On ne tient pas debout. Mais en nous montrant cela, il nous montre qui est-ce qui tient debout. Péniel. Péniel. Ne cessons pas d'être Péniel. Parce que nous sommes toujours des Jacob. Et en fait, on rencontre Ésaü et on a peur d'Ésaü. On a peur de lui dire la vérité. N'est-ce pas? On va avoir un petit silence. On n'a pas dit un mensonge, mais on n'a pas dit la vérité non plus. Parce que juste après, Jacob part plein ouest. Donc il n'a aucune idée, aucune intention de partir vers le sud, qui est là où se trouve Seir. Donc, réjouissons-nous de ce que Dieu a fait. Humilions-nous de ce que nous ne pouvons pas faire et de ce que nous faisons. Et tenons-nous dans la force de l'Éternel. Et puis, là encore, pour la prochaine fois, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va regarder un long passage, très long passage, et je vous invite donc pendant la semaine à bien lire, méditer et étudier les chapitres 34 et 35 de la Genèse. Autrement, la punition, si vous n'avez pas lu ça ni étudié, ça sera que nous les lirons pendant le culte. Alors, je ne sais pas si c'est une punition, mais voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.